Chapitre 8. Le jour de la fête de Briarwood se leva magnifique. De la fenêtre de sa chambre encore sombre, Rory, guettant les premières clartés du jour, se réjouissait des promesses du beau temps. Le ciel, qui avait été si défavorable le jour de son anniversaire, paraissait vouloir prendre sa revanche. Il ne voulait pas de la traditionnelle journée de chasse avec le vent du sud et un ciel couvert. Que la piste fût à souhait pour le flair de la meute, voilà qui l'inquiétait aussi peu que le résultat immédiat de la chasse. Il préférait voir réunies autour de lui toutes les figures qui lui étaient familières, avec un gai soleil d'automne éclairant ce spectacle pittoresque aux colorations variées. Le rouge écarlate des habits, le bai ou le brun des chevaux, le vert des prairies et des buissons. Deux tentes immenses avaient été dressées, une pour les écoliers, l'autre pour les villageois. Dans la salle de billard, de longues tables pour les fermiers, et pour la noblesse, comme le jour de l'anniversaire, la table en fer à cheval avait été réinstallée dans la salle à manger, mais elle n'était décorée que de fougères et de fleurs de plein air. Les orchidées étaient restées dans les serres. Roderick en fit la remarque. Où sont donc les plantes en pot, les fleurs tropicales et tous ces machins dont les noms m'échappent toujours ? Demanda-t-il à sa mère avec quelque surprise. « Je n'ai pas pensé que ce fût une occasion pour les sortir des serres, Rory, » répondit tranquillement Lady Jane. « Elles risquent d'être abîmées, et quelques chasseurs de vos amis pourraient prendre mes fleurs les plus rares pour se les mettre à la boutonnière. Les hommes qui s'occupent de chevaux ne connaissent rien aux fleurs. »« Très bien, ma mère, pourvu qu'il y ait largement à boire et à manger, je crois que le reste importe peu, » répondit Rory. À cet égard, il n'y avait certes pas à se plaindre. Briarwood avait été approvisionné assez amplement pour faire face à une hospitalité sans limite. Les habits rouges, bleus, noirs, marrons allaient et venaient, faisant disparaître avec un parfait entrain hurles de sangliers et d'indes truffées. On entendait sauter les bouchons de champagne, un vrai feu roulant, les flacons bruns de vin du Rhin majestueusement alignés sur le buffet, descendaient de la garde l'un après l'autre, et le sommelier, mettant en ligne les bouteilles vides, se demandait si on n'allait pas vider la cave. Depuis qu'il tenait les clés des celliers à Briarwood, il n'avait jamais vu chose pareille, et cette innovation ne lui souriait pas. Le duc secondait admirablement son neveu. Il était charmant et affable avec tout le monde. Il avait toujours été populaire à Ashbourne. C'était son château de prédilection. Il l'avait acheté de ses deniers, avait présidé à ses améliorations, et il le préférait à ses autres domaines héréditaires. Si seulement j'avais eu un fils comme vous, Rory, disait-il au jeune homme, tandis qu'ensemble, à la porte du vestibule, ils recevaient les arrivants. J'aurais été bien heureux. J'espère bien me rattraper avec un petit-fils, mais c'est égal. Penser que le titre et les biens vont passer à mon chenapan de cousin, c'est dur, allez. Roderick, ce matin-là surtout, était un neveu dont un oncle pouvait être fier à bon droit. Son habit rouge et sa culotte de daim lui allaient à ravir. Il tenait à merveille son rôle de maître, seigneur et hôte de Briarwood. Sa taille grande et droite dominait la foule. Sa figure ouverte inspirait la confiance. Il avait une bonne parole pour tout le monde, une cordiale poignée de main pour les bons paysans et les paysannes venus de leur village pour assister à la fête et prendre leur part du festin. Il conduisait les vieillards sous la tente et leur trouvait une place à table. Le baronnet Tempest et sa fille arrivèrent les derniers. Le rendez-vous était pour une heure, et ils n'entrèrent à cheval dans le parc qu'à midi et demi, lorsque tout le monde avait déjeuné. Mistress Tempest n'était pas venue. La fête commençait trop tôt pour une femme qui ne quittait sa chambre qu'à midi bien sonné. Vixen était ravissante dans son élégant habit de chasse. Ce n'était plus l'Amazone de drap vert Lincoln à boutons d'or dont Lady Mabel s'était moquée autrefois. Sa robe était en drap marron foncé, avec un col droit en toile unie, un chapeau de feutre marron surmonté d'une grande plume de la même couleur, des gants blancs aux longs poignets et un fouet à manche d'ivoire massif. Le brun qui dominait cette toilette s'harmonisait avec la chevelure de Violette. Son cheval bai était magnifique et la selle délicieusement faite. Impossible d'être plus gracieuse lorsque, de sa main gantée, elle jouait légèrement avec la bouche de son cheval. On voyait que la noble bête aimait aussi sa jeune maîtresse. « Comment le trouvez-vous » demanda-t-elle à Rory, après lui avoir donné une poignée de main. « N'est-il pas absolument délicieux ?»« Absolument délicieux !» répondit Rory, qui caressa l'animal tout en regardant la jeune fille. « Papa me l'a donné pour ma fête. Je devais monter Titmouse encore une année. Mais un jour, dans une course folle, j'ai laissé tout le monde en arrière. Et papa a décidé qu'il me fallait un cheval. Le pauvre Titmouse en est réduit à tirer une voiture d'osier. N'est-ce pas triste ? C'est très humiliant. » Lady Mabel arriva bientôt, montée sur un pur sang marron, vêtue sévèrement d'un habit bleu foncé et coiffée d'un chapeau haut de forme. « Je ne crois pas que vous vous soyez jamais rencontrée avec ma cousine, » dit Rory. « Mabel, je vous présente Miss Tempest. Miss Tempest, Lady Mabel Ashbourne. » Violette Tempest eut un tressaillement et devint toute rouge. Puis les deux jeunes filles se saluèrent avec un sourire, sourire contraint de la part de Vixen, glacial de la part de Lady Mabel. « Je veux vous voir toutes les deux grandes amies, » ajouta Rory. « Et quand vous serez présentée dans le monde, Vixen, Lady Mabel vous prendra sous son égide. Elle connaît tout le monde et les usages en toutes circonstances. » De rouge, Vixen devint toute pâle. Elle ne dit pas un mot. Lady Mabel regardait dans le lointain, tout en répondant qu'elle serait heureuse d'être utile à Miss Tempest, si jamais elle se rencontrait à Londres. Rory sentit que le ton n'avait rien d'engageant. Vixen jeta un coup d'œil sur sa rivale. Oui, elle était réellement jolie. C'était une délicate beauté patricienne, comme Vixen n'en avait pas vu encore. Rien d'étonnant que Rory fût amoureux d'elle. Où trouverait-il quelque chose de plus exquis ? Quoi de plus naturel que le cousin et la cousine fussent amoureux l'un de l'autre et fiancés? Et Vixen s'étonnait que la pensée ne lui en fût pas venue plus tôt, c'était inévitable. « Mais il me semble que Rory aurait dû me confier la chose, se dit-elle. N'est-il pas un frère pour moi ? Un frère ne cache pas ses amours à sa sœur. Décidément, ce n'est pas bien de sa part. » Immédiatement commença la grande partie du jour. Le baronnet et sa fille ne descendirent pas de cheval. Ils avaient déjeuné à la maison, et Vixen, qui n'aimait pas beaucoup Lady Jane Vaudrey, fut heureuse de n'échanger avec elle qu'un sourire et un salut. À 1h15, tout le monde était en route vers la forêt. Vixen caracolait à côté de son père. « Vous êtes pâle, papa. Avez-vous encore mal à la tête ?»« Oui, ma chère enfant. » « Je crains d'avoir pris une migraine, mais le grand air la chassera, je l'espère. Mais vous-même, Vixen, vous ne me paraissez pas très bien. Qu'avez-vous fait de vos belles couleurs ?»« Je ne me soucie pas beaucoup de la chasse aujourd'hui, papa, » répondit Violette, un flot de larmes s'échappant subitement de ses yeux. « Vous n'êtes pas bien et je ne m'amuse pas. Personne n'a besoin de nous, pourquoi rester ?» Rory venait un peu en arrière, surveillant Lady Mabel, dont les jambes minces se donnaient autant de mouvements que si elle avait fait de la haute école dans un cirque, mais elle n'en allait pas plus vite. « Nous en retourner ? Oh non, fillette ! Jack Purdy peut faire toute la besogne, mais on aime à me voir en avant. Nous nous rencontrerons là-bas, je crois, à Dingley Bottom, et nous aurons une belle course à travers les collines de Beaulieu. » La rencontre eut lieu juste comme l'avait prévu le baronnet. Alors commença une course effrénée qui dura 5 quarts d'heure. Roderick resta tout le temps en arrière, ouvrant les barrières à sa cousine, lui évitant tous les dangers. La lalie eut lieu dans un endroit sauvage, sur le territoire de Beaulieu. mais peu de chasseurs y assistèrent. On y voyait Vixen sur son magnifique cheval bai tout enthousiaste et noyant son chagrin dans les joies enivrantes du triomphe. « Comme vous paraissez fatigué, papa, » dit-elle au retour. « Effectivement, je le suis, mais un bon dîner me remettra complètement. La chasse a été superbe et votre cheval s'est très bien comporté. Je crois mon choix excellent. Mais Rory et sa cousine sont restés bien en arrière. C'est une jolie fille qui se tient bien en selle. Quoique ne sachant pas galoper, elle n'a pas de main. Nous les verrons peut-être rentrer. » Un mile ou deux plus loin, ils virent Roderick seul. Sa cousine était partie avec son père. « La course n'a pas été des plus amusantes, » dit-il, en venant se placer à côté de Vixen. « Il me fallait prendre soin de ma cousine. » Un des fermiers du baronnet, monté sur un vigoureux cheval gris, les rencontra. Il se plaça à côté de Sir Tempest, et ils entamèrent une conversation sur l'agriculture et le bétail. Roderick et Violette, restés seuls, allaient lentement derrière eux. Le jour baissait. Ils suivaient une route bordée de bois, dans les massifs desquels se faisaient entendre le rouge-gorge et la grive. Une faible rougeur avait envahi les joues de Vixen. Forte en colère contre son compagnon de jeu, elle lui reprochait son manque de confiance et sa réserve peu amicale. Et cependant, c'était pour elle le seul moment heureux de la journée. Jusque-là, elle s'était sentie délaissée, oubliée. « Vous vous êtes amusé, j'espère ?» lui demanda Rory. « Vous ne vous êtes pas beaucoup inquiété de savoir si nous nous amusions ou non ?» répondit Vixen, en confondant sa personnalité dans un vague pluriel. « Si cela vous eût occupé, vous seriez venu avec nous. »« Sultan, » ajouta-t-elle en désignant le cheval de Rory, « a dû se trouver bien humilié de rester autant en arrière. » S'il était permis à un homme d'occuper deux places à la fois, la moitié de mon être, la meilleure, se fût trouvée avec vous, Vixen. Mais je devais protéger ma cousine, j'avais insisté pour qu'elle vînt. « Évidemment, » reprit Vixen, avec un mouvement de tête significatif. C'eût été très mal qu'elle n'y fût pas. Ils marchèrent ensuite en silence pendant quelques instants. Vixen avait bien envie de dire à Rory « Vous avez très mal agi avec moi. Vous auriez dû me dire que vous alliez vous marier. » Mais quelque chose la retenait. Elle caressait l'encolure de son cheval, écoutait le chant des oiseaux dans le bois et se taisait. Le baronnet et le fermier étaient à 100 mètres en avant, causant avec animation. Voici les deux jeunes gens à un carrefour où leurs routes respectives faisaient une bifurcation, et Rory continua d'accompagner Vixen. « N'est-ce pas là votre chemin le plus direct ?» demanda Vixen en indiquant du bout de sa cravache la route opposée. « Je ne veux pas aller au plus court, je désire vous accompagner à l'abbaye. Je ne serai pas assez dur pour vous refuser, mais le pauvre sultan doit être bien fatigué. » Ils arrivèrent au milieu d'une plantation de chênes partagée dans toute sa longueur par une magnifique allée. Le bois avait un aspect mystérieux à cette heure où l'obscurité s'épaississait au-dessus des grands arbres. Il marchait silencieusement sur le tapis humide des feuilles mortes. De temps en temps, les chevaux tressaillaient à la rencontre d'un tronc d'arbre, privé de son écorce et jeté en travers du chemin. Ils avaient en ce moment peu de choses à se dire. Vixen était tout à fait en colère, Rory songeait que son avenir était confus et obscur. Peut-être sa mère avait-elle raison, peut-être serait-il sage de suivre ses conseils. Mais aucune ambition n'avait d'écho dans son âme. Ils étaient à 200 mètres environ de la barrière de l'enclos lorsque tout à coup Vixen poussa un cri. « Oh, regardez donc papa, comme il penche sur la selle !» Une seconde après, le baronnet se penchait tout à fait et tombait la tête en avant par-dessus son cheval. La chute fut si soudaine et si lourde que le cheval tomba avec lui. Puis il se redressa effrayé, et se retournant, il passa comme une flèche à côté de Vixen et de Roderick épouvanté. En un instant, Vixen sautait à bas de son cheval et se trouvait à côté de son père. Il était étendu comme une masse, la face contre le sol. Le fermier avait mis pied à terre. La bride de son cheval passait au bras. Il était penché sur lui, la frayeur dans le regard. « Qu'y a-t-il ? » s'écria Vixen vivement. « Est-ce le cheval ? Bullfinch, mon favori, est-il blessé ? Aidez-moi à le relever ! Aidez-moi ! Aidez-moi donc !» Rory s'était agenouillé à côté d'elle, essayant de soulever ce corps inerte. « Ce n'est pas le cheval, miss, » dit le fermier. « Je crains une attaque. »«
Une attaque ? Oh, papa, papa, cher petit père !»
Elle sanglotait et l'étreignait, tremblante comme une feuille, tournant vers Roderick sa figure d'une pâleur mortelle.
« Faites quelque chose pour m'aider, pour l'amour de Dieu ! Faites quelque chose » criait-elle. « Vous n'allez pas le laisser mourir là, faute de secours ! Du brandy, quelque chose par pitié » continua-t-elle d'une voix haletante, en étendant vers lui ses mains suppliantes.
Le fermier l'avait devancé. Il avait saisi sa gourde et s'était agenouillé près du baronnet. Roderick soulevait la tête et tournait cette mâle figure déjà livide du côté du soleil couchant. Il essaya de faire passer un peu de brandy entre les lèvres pâles du mourant, mais ce fut en vain.
« Pour l'amour de Dieu, emmenez-la » dit-il à John le fermier. « Tout est fini pour lui. »
« Venez avec moi, ma chère Miss Tempest, » dit John, en essayant de soulever Violette agenouillée près de son père. Elle regardait cette figure décomposée avec une terreur qui l'anéantissait, devinant presque la réalité et attendant cependant que ses yeux si bons s'ouvrissent encore pour la regarder.
« Venez avec moi, nous irons chercher un docteur. Monsieur Vaudrey restera auprès de votre père. »«
Allez seul chercher le docteur, » répondit-elle avec fermeté. « Je resterai près de papa. Prenez mon cheval, il ira plus vite que le vôtre, il vous portera bien. » « Vous ne savez pas combien il est fort. Allez, vite, vite, il y a loin d'ici Lyndhurst, chez le docteur Martin. Mais vous le trouverez. Peut-être papa reviendra à lui et pourra regagner la maison sur son cheval avant votre retour. Mais allez, allez !»«
Non, allez-y, miss. Votre cheval ira plus vite avec vous. Il n'a pas l'habitude d'un poids comme le mien, et mon cheval ne se tient plus de fatigue. »
« Allez, monsieur Vaudrey ira avec vous, je soignerai le baronnet. »
Violette, désespérée, les regardait l'un après l'autre.
« Je veux rester avec papa, » dit-elle. « Allez-y, Rory, oui, allez, allez, je veux rester avec papa. »
Elle restait accroupie sur la terre humide. Elle mit la tête sur ses genoux et regarda les deux hommes avec une expression navrante, indiquant bien une résolution fortement arrêtée qu'ils ne pourraient faire céder ni l'un ni l'autre. Ils employèrent tous les moyens pour la persuader, mais elle les repoussait tous. Elle restait fixée là, comme une nouvelle niobée. C'était la statue du désespoir. Roderick s'élança alors en selle et partit pour Lyndhurst. L'honnête John Wimble attacha à la barrière les deux autres chevaux et se tint à quelques pas du père et de la fille, attendant la fin de ce triste drame. Ce fut l'heure la plus dure que la pauvre enfant eut encore passée. Elle éprouvait au fond du cœur une crainte horrible qu'elle ne pouvait qualifier. Elle n'osait pas se dire « Mon père est mort ». Dans l'attitude qu'elle avait prise, il lui était impossible de remuer les bras, par suite d'étendre la main pour la poser sur le cœur de son père. Elle pencha la tête sur ses lèvres. « Dieu ! Pas un souffle ne caressa sa joue. La mâchoire inférieure s'était affaissée d'une façon effrayante. Mais parfois déjà, Violette avait vu son père à peu près ainsi quand il dormait, la bouche ouverte devant le feu du hall. Ce n'était peut-être qu'un long évanouissement. Le docteur allait venir. Oh, comme le temps lui paraissait long, long comme l'éternité. Et il le ferait revenir à lui. Le croissant argenté de la lune se montra au-dessus du grand bois. Les troncs d'arbres dégarnis de leur écorce étaient comme des spectres blancs au milieu des ténèbres. Les hiboux se faisaient entendre dans le lointain, les grenouilles coassaient dans le marais. Toute la nature revêtait une teinte gris-argentée sous la lumière de la lune. L'air de novembre était frais et pénétrant. Les membres endoloris de Violette se fatiguaient sous le fardeau sans qu'elle eût conscience de sa souffrance. Il lui semblait qu'il y avait des heures qu'elle était là à attendre le docteur. Elle se croyait au milieu de la nuit.
Le docteur Martin n'était pas chez lui, dit-elle en parlant pour la première fois depuis le départ de Rodrigue. Monsieur Vaudrey cherche un autre médecin. Ma chère demoiselle, il n'a pas encore eu le temps d'arriver à Lyndhurst.
Pas encore, s'écria Vixen désespérée. Pas encore. Il est parti depuis si longtemps. Papa devient si froid. L'air glacial lui fait du mal.
Pas autant qu'à vous, miss. Vous devriez me laisser vous conduire chez vous.
Et laisser papa ici, seul, sans connaissance. Comment pouvez-vous penser à une chose aussi cruelle ?
Chère Miss Tempest, nous ne lui faisons aucun bien, et vous pouvez attraper un froid qui pourrait devenir mortel. Si vous vouliez seulement aller auprès de votre mère, elle ne sait pas, elle doit être inquiète de vous.
Ne perdez pas votre temps en paroles inutiles, dit-elle indignée. Je ne quitterai cette place qu'avec papa.
Ils attendirent encore un quart d'heure dans un lugubre silence. Les chevaux mordaient les branches d'arbres à leur portée et, de temps à autre, manifestaient leur impatience. Très probablement, le cheval du baronnet était rentré à l'écurie. Il ne se trouvait qu'à environ 1 mile et demi de l'abbaye.
Tout à coup, le galop d'un cheval se fit entendre, et une seconde après, Rory franchissait la barrière, accompagné d'un étranger.
« J'ai eu le bonheur de rencontrer monsieur, dit-il. C'est un docteur de Southampton. Il était avec nous aujourd'hui. Maintenant, Violette, ma chère Violette, voulez-vous me permettre de vous reconduire chez vous et de laisser le docteur et monsieur Wimble avec votre père ?»«
Non, répondit Vixen avec fermeté. »
Le médecin agenouillé examinait le baronnet. C'était un homme d'un certain âge, à l'air grave, aux cheveux gris. Elle le regarda silencieusement d'un air suppliant, exprimant un tel désespoir qu'il en fut ému, si habitué qu'il fût à la douleur. Sans dire un mot, le docteur auscultait le malade. Il était placé de telle sorte que sa figure se trouvait cachée. Enfin, il se tourna vers les deux hommes qui, debout près de lui, le regardaient anxieusement. « Il faut vous procurer une litière pour le ramener chez lui, » dit-il à voix basse. Puis, avec une fermeté courtoise, d'une main forte et irrésistible, il sépara Violette de son père, la releva et la conduisit vers son cheval. « Il faut laisser Monsieur Vaudrey vous reconduire chez vous, ma chère demoiselle. Vous n'avez plus rien à faire ici. »
« Mais vous pouvez faire quelque chose, » sanglota Violette. « Vous le rappellerez à la vie, vous. »«
Je ferai tout ce qu'il faudra faire, » répondit le docteur avec douceur. Son ton lui en dit plus que ses paroles. Elle poussa un cri terrible et tomba sans connaissance à côté de son père mort. Le docteur lui fit glisser quelques gouttes de brandy entre ses lèvres serrées. Puis, aidé de Rory, il la mit à cheval. Elle avait juste assez de force pour tenir machinalement la bride et rester en selle. Et, conduite par Rory, elle reprit lentement le chemin de la maison, qui déjà pour elle n'avait plus rien de commun avec la maison où elle avait passé gaiement les 16 premières années de sa vie. Quel brusque changement! La joie de son insouciante jeunesse était brisée comme une fleur arrachée de sa tige.